Bonjour, classe.
Bonjour, frère Chris.
Salut, je suis Chris Moore et voici l'école de la foi. L'école de la foi est l'endroit où notre esprit est nourri, notre foi se fortifie et nous apprenons à triompher. C'est merveilleux de triompher. Au lieu d'être vaincu, c'est merveilleux d'être victorieux au lieu d'être une victime. Si vous le dites, il est trop tard pour cela. Non. Non. Il nous fait toujours triompher, peu importe ce que vous avez vécu. Décidez de penser, je n'ai pas terminé, tant que je n'aurai pas vu la victoire complète. Dans ce domaine et que Dieu ne sera pas glorifié par cette victoire. Procurez-vous votre Bible et de quoi prendre des notes, venez en classe avec nous. Et mettez de côté toutes les autres distractions. Ne vous laissez pas distraire. Accordez toute votre attention au Seigneur. Pendant une courte période, il n'y a pas beaucoup de temps pour le cours. Et laissons libre cours à la foi. Et croyons en Dieu que c'est exactement ce que nous avons dit que notre foi est vivifiée et que nous sommes éclairés. Seigneur, nous vous demandons ce que vous seul pouvez nous donner. Par votre grand esprit, enseignez-nous. Accélérez-nous. Aidez-nous à voir qui vous êtes vraiment. Ce qu'est la foi selon vous. Aidez-nous à voir les mauvaises idées que nous avons eues, ou les mauvaises idées qui nous ont été enseignées. Aidez-nous à voir la vérité, la lumière, ce qui n'est pas vrai et ce qui ne l'est pas. Et merci de nous avoir aidés à progresser, et de vous avoir fait plaisir, dans notre marche dans la foi, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Merci, Seigneur. S'il vous plaît, retournez au chapitre 10 d'Hébreux pour lire le texte de cette série que nous appelons. La foi, par la foi. Une étude presque verset par verset, une étude du chapitre 11 d'Hébreux. Le discours commence plutôt au chapitre 10 et au verset 35. Il dit « Ne perdez donc pas votre confiance, qui est une grande récompense, car vous avez besoin de patience, pour, après avoir fait la volonté de Dieu, recevoir la promesse. » Et les Écritures parlent de cela au chapitre 11. Mais juste au début du chapitre suivant, le 12e chapitre, il a dit « Comme nous sommes également entourés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous ces hommes et femmes qu'il vient de mentionner dans Hébreux chapitre 11, ces témoins de foi, laissons de côté tout poids et le péché qui nous assaille si facilement, et courons avec patience la course qui nous attend. » Patience. Il vient de dire ici, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Cette course dont il parle est une course à la vie. Et c'est par la foi que nous menons cette course à la vie. Et ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. C'est une course d'endurance. Et ce n'est pas celui qui saute le plus vite. Et qui a réalisé le meilleur temps hier? C'est ce que vous faites encore aujourd'hui, et demain, la semaine prochaine, et le mois prochain. Vous établissez un rythme de confiance et de croyance en Dieu, et vous décidez de dire que vous ne vous arrêtez pas. Nous allons mener cette course à la fois, tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que nous ne soyons plus sur terre. Et nous allons découvrir que même après cette vie, nous emporterons notre foi avec nous. La foi que nous avons apprise, la foi que nous avons développée, nous l'emportons avec nous. Et elle continue de se développer. Après cette vie, parce que la foi n'est pas une chose temporaire, c'est ce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Maintenant subsiste, pourrait-on dire, il reste maintenant. La foi, l'espérance et l'amour. Elles demeurent perpétuelles. Donc, le temps que vous passez à l'école de la foi n'est pas inutile. Vous l'utiliserez le reste de votre vie et, par la suite, c'est ainsi qu'il nous le montre au chapitre 11, verset par verset. Des individus. Pourquoi nous montrerait-il ça? Parce que, comme le dit le verset 13 de la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 4, nous avons le même esprit de foi. Donc, ce que nous voyons Abraham faire est exactement ce que nous devons faire dans notre vie. Ce que nous voyons faire Enoch, Sarah et toutes ces personnes, nous devons l'appliquer directement à notre vie. Parce que la foi est la même, peu importe l'année, le siècle ou la situation. La foi est la même, le même esprit de foi. Et nous sommes allés jusqu'au verset 32 du chapitre 11. Bon. Regardons ces personnes. Et nous en avons étudié quelques-unes, sur Barak, Gédéon et Jephté, et maintenant nous en sommes à Samson. Et Samson est connu parmi ceux qui, lorsqu'il était enfant, ont entendu des histoires de la Bible. Pour sa force, ses grands exploits de force. Et parfois, c'est le seul aspect auquel les gens pensent, et cela ne suffit pas. Dans Hébreux, chapitre 11, il ne s'agit pas seulement d'un chapitre sur la force, mais sur la foi. Samson avait donc la foi. Nous avons déjà commencé à voir où sa foi s'est exprimée et s'est manifestée, si vous voulez revenir au chapitre 14. Juge 14. Beau. Même 13, 24 et 25. Même lorsqu'il était jeune. Les Écritures disent que l'Esprit du Seigneur a commencé à l'animer de temps en temps. L'Esprit de Dieu viendrait en lui. Et il serait capable de faire des choses qu'il ne pourrait pas faire, physiquement, sans cette onction. Puis, dans le chapitre 14, versets 5 et 6, il y a eu un moment où il se rendait quelque part. Et un lion est sorti des broussailles ou des bois, du buisson, comme vous voulez. Et ça allait lui sauter dessus et le tuer. L'Esprit de Dieu est entré en lui avec force. Et il a simplement déchiré ce lion. Sans rien dans sa main. Il n'avait aucune arme, il était simplement à main nue. Je viens de couper ce lion. En deux. Ce n'est pas possible. Uniquement avec la force corporelle, humaine. Mais cela ne disait pas qu'il l'avait fait avec sa force. Qu'est-ce que ça disait? L'Esprit du Seigneur. Quelqu'un dit, l'Esprit du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur.
L'Esprit du Seigneur est entré en lui. Et puis il y a eu cette force surnaturelle. C'est plutôt naturel. Alors, quand nous demandons, pourquoi Samson figure dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux à cause de sa foi? Oui, sa foi démontrait. Il avait foi en onction. Il avait foi en l'Esprit de Dieu qui venait en lui et le rendait capable. En fait, vous pouvez voir que, plus tard dans sa vie, il s'attendait à recevoir cette onction. En cas de situation alarmante ou de confrontation, de situation ou de soldat, philistin à combattre, même si c'était en dormant profondément, il se réveillerait rapidement. Il s'attendait à ce que cette onction vienne. Avez-vous entendu cette phrase, mes amis? Il s'attendait à ce que cela arrive. Alors il déciderait de faire quelque chose qu'il ne serait pas vraiment capable de faire. Mais quand il le ferait, il recevait cette onction et il devenait surnaturellement capable. Pourquoi devrions-nous étudier cela? Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous aussi. Et l'Esprit de Dieu vient sur nous aussi pour de nombreuses choses différentes. Mais tout n'est pas décidé par l'onction. Nous avons une responsabilité dans ce processus. Notre foi est un facteur qui contribue à la manifestation de l'onction dans notre vie. Lisons le livre des Romains, s'il vous plaît. Créé et assigné dans Judges, nous y reviendrons plus tard. Mais dans Romains, chapitre 12, au chapitre 12 et au verset 3, il a dit, je dis, par la grâce qui m'a été accordée, à chaque homme qui est parmi vous, de ne pas avoir plus d'estime de lui-même qu'il ne devrait le penser, mais de penser sobrement, selon que Dieu a donné à chaque homme la mesure de la foi. Pensez de façon réaliste en fonction de la quantité de foi qui vous a été donnée. Ayant donc des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous est donnée, que la prophétie nous Laisse prophétiser. Lisez la phrase suivante avec moi. Selon la proportion. Deux fois. Selon la proportion de foi. Eh bien, comment pourrait-on prophétiser? Est-ce que ce serait par l'esprit? Est-ce que ce serait par l'onction? Alors, en quoi la foi est-elle impliquée dans la prophétie? Vous voyez, c'est une révélation qui est en train d'être démontrée. Certaines personnes l'ont imaginé. En ce qui concerne le parler en langue, par exemple. J'ai eu du mal à parler en langue. Waouh, je l'ai certainement fait pendant des années. J'ai lutté, j'ai prié. Je voulais vivre cette expérience. Je savais que c'était inscrit dans la parole. J'étais convaincu que c'était pour tout le monde aujourd'hui. Mais moi, mois après mois et année après année, je ne recevais rien. Parce que je n'ai pas compris mon rôle là-dedans. Je pensais que tout dépendait du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne en vous, qu'il prenne simplement le contrôle de vous. Et qu'il parle à travers vous. Indépendamment de vous. Et j'ai même dit à des gens, j'ai dit, « Eh bien, je ne veux pas que ce soit moi. » Qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas le vouloir? Je ne le savais pas. Mais en l'examinant maintenant, que voulez-vous dire par ne pas en vouloir? Eh bien, si vous m'entendez parler dans certaines langues, ce ne sera pas moi. Eh bien, qui est-ce que ce sera? Ce serait l'esprit. Vous voulez donc que l'esprit reçoive l'esprit? Vous voyez la confusion. Je n'ai pas compris que la Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est entré en eux, ils parlaient d'autres langues au fur et à mesure que l'Esprit les exprimait. C'est eux qui ont parlé. Le fait qu'ils parlaient n'était pas surnaturel. Ils devaient utiliser leur langue, leurs lèvres, forcer l'air à sortir de leurs poumons, et parler exactement comme si vous parliez dans une langue connue. La partie surnaturelle est l'origine de l'énoncé. Cela ne vient pas de votre connaissance, cela ne vient pas de votre compréhension, cela vient de votre corps et du Saint-Esprit. Mais vous devez quand même parler, sinon vous ne partagerez pas. Et c'est là que j'ai été pendant des années. J'ai continué à attendre que Dieu m'y oblige. Faites-moi le faire. Et je n'ai pas reçu, je n'ai pas parlé. Enfin, grâce à Dieu, j'ai pu lire un livre de frère Kenneth Hagin. Et il a parlé de la façon dont on s'abandonne à l'esprit. Et j'ai parlé par la foi, et je me suis dit que ça ne pouvait pas être aussi simple. Et ça l'était. Ça l'était. J'ai parlé avec foi, et devinez ce qui s'est passé? J'ai parlé. J'ai parlé. Eh bien, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que cet exemple vous montre que si vous voulez prophétiser, comment allez-vous prophétiser? Selon la proportion de foi que vous avez. Nous ne pouvons dire qu'avec moins de foi, vous allez prophétiser dans une moindre mesure. Une plus grande foi, une plus grande proportion de foi. Vous prophétiserez à un niveau supérieur et à un degré plus élevé. Et il ne s'est pas contenté de prophétiser, il a dit au ministère, attendons que nous accomplissions notre ministère, où nous pouvons dire n'importe quel type de ministère ou de service. Vous le ferez par deux grandes choses. Vous le ferez avec l'onction qui vous le permet, mais ce n'est pas le seul facteur déterminant. Cette onction se manifestera sur vous selon votre proportion. Deux fois, la proportion de votre foi. Nous voyons l'onction se manifester sur Samson d'une manière étonnante. Est-ce que c'est exact? Pourquoi? Tout d'abord, il a été appelé et séparé par Dieu. C'était le plan de Dieu qu'il soit le libérateur de sa nation. Mais nous savons, d'après le chapitre 11 d'Hébreux et ce dont nous avons parlé ici, que Samson avait une très grande part de foi pour que l'onction lui parvienne physiquement. Dieu l'a préparé en ce sens. Il l'a formé à cela dès son plus jeune âge. Il a vécu de nombreuses expériences, de sorte que, lorsqu'il est devenu un homme, et qu'il a eu le temps d'accomplir pleinement l'appel de Dieu, il a eu une foi exceptionnellement forte dans le fait que, lorsqu'il partait au combat ou faisait quoi que ce soit, l'onction pénétrait en lui comme un feu puissant. Il a cru que cela allait arriver. Il s'attendait à ce que cela arrive avec beaucoup de foi. Vous comprenez cela? C'est pourquoi il figure dans Hébreux, chapitre 11. Et c'est très important parce que beaucoup de gens, comme je le pensais, si je ne parle pas en langue, c'est contrôlé par Dieu, c'est contrôlé par le Saint-Esprit. Vous avez donc de nombreuses personnes qui pensent la même chose à propos de nombreuses situations différentes. Eh bien, c'est Dieu qui le contrôle. Nous aimerions que Dieu le fasse. Nous attendons que Dieu le fasse. Non, non. Nous avons également une responsabilité. Même si Dieu vous a appelé et a mis son esprit en vous pour quelque chose, cela se manifestera dans la mesure de votre foi. Une partie de mon appel consiste à parler. Et la première fois que je suis allé parler, j'ai été invité dans une petite église. C'était il y a des décennies. Et ma confiance n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. En d'autres termes, ma foi pour cette onction à venir n'était pas là. J'ai passé des heures et des heures sur mes notes. À cette époque, elles étaient écrites à la main, et j'avais tellement peur d'oublier quelles notes j'étais censé lire, que je prêchais ainsi. J'en lisais une partie, puis je me suis dit, je ferais mieux de ne pas rester immobile, de mettre le doigt dessus et de faire un pas en avant, et je ferais en sorte de ne pas perdre ma place. J'ai fait de mon mieux. Mais j'ai reçu cette onction des les peuples, pour enseigner, prêcher, servir. Mais ma foi était moindre. Pour l'exprimer et croire que cela se produirait. Vous comprenez cela? Donc, je marche plutôt à vue. Je voulais que tout soit planifié et décidé pour ne pas me tromper. Mais maintenant, après des décennies passées à faire cela et à nourrir ma foi, elle a grandi. Elle s'est développée. Je ne dis pas que sa croissance est terminée. Je veux qu'il grandisse davantage. Mais je peux commencer dans un cadre comme celui-ci ou dans n'importe quel autre. Je me suis préparé, j'ai prié, j'ai écrit quelques notes, mais je crois en quelque chose de plus que cela. Je crois que l'onction doit avoir lieu dès maintenant et qu'elle me permettra de prononcer, de dire la bonne chose, de la dire exactement de la bonne manière. Je crois que l'onction doit venir en vous et en vous tous. Venir en vous, vous éclairer, vous voyez des choses, vous obtenez des choses, vous obtenez des réponses, vous êtes accéléré et vous vous fortifiez. Ce n'est pas moi qui fais cela, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais voyez-vous que ma foi, et la vôtre aussi, est liée. Plus nous croyons fermement, il est prêt à tout moment. Si quelqu'un agit avec foi, cela se produira. Ça va arriver. Quand il s'agit de parler en langue. Je sais que certains de mes proches ne comprenaient pas certaines de ces choses. Et quand j'ai commencé à parler en langue, ils ont voulu me poser des questions à ce sujet. Et ils ont dit, vous dites que vous pouvez simplement parler en langue quand vous le souhaitez? Et j'ai essayé de leur citer les Écritures, mais ils ne l'ont pas compris. Et une dame m'a dit, tu ne peux pas simplement éteindre et rallumer le Saint-Esprit comme ça quand tu veux. Et sans y penser, c'est juste sorti de mon esprit. J'ai dit, non, il est toujours là. Il est toujours allumé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il est toujours en toi. Il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Il ne part jamais. Et alors? Quand j'agis avec foi pour parler en langue. Il est près de moi pour m'exprimer. Voyez-vous que l'onction et l'énonciation surviennent au moment où vous décidez de parler? Le moment où vous décideriez de témoigner et d'être un témoin. Au moment où Samson déciderait de se battre, voyez-vous que cet acte de foi a provoqué une manifestation immédiate de l'onction? Gloire à Dieu! C'est pourquoi Jésus a exercé son ministère de la manière dont il l'a fait. Vous vous souvenez qu'au cours de son ministère terrestre, il lisait un passage du prophète Ésaïe, que nous avons souvent des raisons de croire, où il est dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Ensuite, il dirait, il le lirait et dirait, « Il m'a oint pour faire ceci et cela, et pour faire d'autres choses. » Et ensuite, il dirait, « Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie à vos oreilles. » Pourquoi dit-il cela? Pourquoi? Pour eux, croire que l'onction est là pour faire ces choses? Parce que lorsque nous agissons avec foi dans l'attente de l'onction, elle vient. Lui, l'Esprit de Dieu, se manifeste. Et l'onction se manifeste. Si vous vous asseyez sans rien faire ou si vous reculez et reculez, il n'y a aucune manifestation. Mais nous voyons ici s'il s'agit d'une prophétie ou d'un ministère. Êtes-vous toujours au chapitre 12 de Romains? Qu'il s'agisse de servir, qu'il l'ait dit ou d'enseigner, vous voyez, c'est ce dont je parle depuis quelques minutes, n'est-ce pas? Enseignement. En ce qui concerne les choses de Dieu, l'enseignement est aride et intellectuel, sans onction. Il n'y a aucun intérêt à le suivre. Mais si l'onction est dessus, elle illumine vos yeux. Cela vous sert, cela vous accélère. Et comment allons-nous nous y prendre? Selon l'onction, oui, mais selon la proportion de foi. Exhortons à le faire selon la proportion de foi. Bon. Vous donnant, faites-le selon la proportion de foi. C'est pourquoi beaucoup de gens ne donnent rien. Aucune foi. Hein? Ils ne croient pas que Dieu va le multiplier et le leur redonner, alors ils s'y accrochent et s'y accrochent. Celui qui règne, avec diligence, qu'il le fasse selon la proportion de foi. Tout cela dépend de la mesure ou de la proportion de foi que vous avez développée. Et quand votre foi ou la mienne se développe davantage, nous n'y accédons plus. Plus nous avançons avec foi et audace, et plus nous sommes confiants pour le faire. C'est la réponse la plus forte du Saint-Esprit. C'est génial, n'est-ce pas? Cela explique pourquoi il n'y a pas de manifestation dans de nombreux domaines. Et cela explique aussi pourquoi, chez certaines personnes, cela ne cesse de devenir de plus en plus fort et de plus en plus. Pourquoi? Parce que leur foi grandit. Alléluia! Et ils s'attendent simplement à ce que cela se produise. Oh, gloire à Dieu! Je suis heureuse maintenant grâce à ma propre prédication. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, tout au long de notre vie et de notre ministère, nous avons des églises, des projets et des choses à faire. Ce studio, c'était un projet. Cela n'existait pas. Jusqu'à ce que le Seigneur nous en donne le concept et l'idée. Et quand nous l'avons lancé, je m'attendais à ce que cela se produise. Nous n'avions pas d'argent pour le faire. Nous n'avions aucun plan, nous ne l'avions jamais fait auparavant. Nous nous attendions à ce qu'il arrive, et quelqu'un sait ce qui s'est passé? Il est arrivé. Pourquoi est-il arrivé? Parce que l'Esprit de Dieu, l'onction, a agi sur les gens. Est-ce que c'est exact? A fait bouger les gens, les a attirés, les a habilités. Mais cette onction s'est manifestée. Lorsque quelqu'un a agi avec foi, s'attendant à ce que cela se produise. Je m'attends à attendre. J'ai demandé à ma femme, Phyllis, souvent, à peu près tous les jours. Quelque chose surgit, et je vais dire, qu'est-ce qui nous enthousiasme? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui nous enthousiasme? Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas emballé, si vous n'attendez pas quelque chose, vous n'avez pas la foi. Et si vous n'avez pas la foi, vous ne donnez rien à utiliser au Seigneur. Il ne s'agit pas uniquement de Dieu, ce n'est certainement pas nous tous. Mais ce n'est pas tout à fait Dieu non plus. Il utilise notre foi et notre réponse à lui. Et donc, en comprenant cela, il devient de plus en plus évident. Pourquoi? Samson n'est pas simplement un homme fort. C'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Il devrait certainement figurer dans le chapitre 11 d'Hébreux. Qui d'autre a fait de tels exploits? Avec l'onction de Dieu? Il s'y attendait, je sais que je l'ai déjà dit. Trois ou quatre fois. Mais il s'attendait à recevoir cette onction. Lorsqu'il a saisi ce lion, il s'attendait à ce que cette onction entre en lui, quand il l'a ramassé, la mâchoire d'un âne, et a commencé à se balancer. Il s'attendait à ce que cela arrive. Et c'est arrivé. Cela s'est produit et s'est précipité en lui et lui a donné le pouvoir de faire des choses qui, autrement, seraient absolument humainement impossibles. Mais c'est là que Dieu obtient la gloire. C'est quand les choses arrivent que tout le monde dit que cela devait être Dieu. Cela n'aurait pas pu se produire. Sans Dieu, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Qui vient sur nous? L'Esprit du Seigneur a été oint. Quand Jésus prêchait cela et disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint », il y a des raisons de penser qu'il l'a fait de nombreuses fois dans différentes villes, offices et lieux. Ensuite, la Bible dirait que les gens viendraient en masse qu'ils cherchaient à le toucher. Vous en souvenez-vous? Pourquoi? Y avez-vous déjà pensé? Pourquoi cherche-t-il à le toucher? Parce qu'il vient de leur dire que l'onction est là. Vous comprenez ceci? Cette onction est sur moi. Cette onction est là pour vous guérir, pour vous sauver, pour vous aider. Et la foi vient de lui. Ils entendaient cela, ils le croyaient. Et ils voulaient entrer en contact, et la Bible disait, tous ceux qui l'ont touché étaient parfaitement guéris. Pourquoi? Vous comprenez à présent, quand ils ont touché, qu'est-ce qui se passait d'autre? Ils s'y attendaient. Quand ils l'ont touché, ils s'attendaient à ce que l'onction dont ils avaient entendu parler entre en eux. C'est ce qui s'est passé pour les guérir et les sauver, ainsi que tous ceux qui les ont touchés avec foi et qui s'y attendaient. Vous vous souvenez de la femme qui avait un problème de sang? Elle avait subi de nombreuses opérations et de nombreux types de traitements. Et elle n'a pas été aidée, mais elle a empiré, aucune science de son époque ne pouvait l'aider. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, je me demande ce qu'elle a entendu. Elle a entendu qu'il avait été oint. Elle a entendu que les gens le touchaient et qu'ils étaient guéris. Elle a entendu qu'il touchait les gens et qu'ils étaient en train d'être guéris. Elle y a tellement cru que, affaiblie, elle a quitté la maison. Elle s'effrayait un chemin parmi la foule et la Bible dit qu'elle n'arrêtait pas de dire en elle-même « Si seulement je pouvais toucher l'ourlet de son vêtement, si je pouvais juste toucher, que fait-elle ?» Que fait-elle? A-t-elle foi en la puissance de Dieu? Est-ce qu'elle s'attend à ce que ce pouvoir se manifeste lorsqu'elle fait ce geste? C'est ainsi que les miracles se produisent, en ce moment même. C'est ainsi que cela s'est toujours passé. Pour chaque personne, quelle que soit la génération et la situation, c'est pareil, la foi. Cela fonctionne de la même manière. Quand on ne voit rien se passer, c'est parce que les gens n'y croient pas. Ils ne s'y attendent pas. Ils n'agissent pas. Ils ont abandonné. Ils ont démissionné. Ils ont perdu tout espoir. Mais nous ne faisons pas partie de ceux qui reculent. Nous faisons partie de ceux qui aiment cette femme. Nous disons, dès que je la toucherai, elle viendra. Dès que je me lèverai et que je commencerai à parler, les onctions vont arriver. Dès que j'aurai dit Amen à cette prière, elle viendra. Les choses arrivent, les réponses arrivent, les provisions arrivent, l'onction arrive, et cela, mon frère et ma sœur, plaît à Dieu. Cela le fait sourire. Il répond, c'est de cela que je parle. Et il se manifeste, comme sur son sang. Il manifeste ce pouvoir, et il apporte des miracles. Et nous en avons encore terminé aujourd'hui. Nous avons apprécié d'être avec vous. Rejoignez-nous demain, nous n'avons pas fini d'étudier cela. Rejoignez-nous à nouveau demain à l'école de la foi.
Merci de vous joindre à nous à l'école de la foi. Le cours est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez regarder cet épisode et d'autres l'école de la foi gratuitement sur faithschool.org. Pour plus d'informations, visitez notre site web ou appelez-nous au 1 9 4 1 7 0 2 7 3 9 0.